au détour d'une rencontre, une émission proposée par l'association Détour, un dialogue entre vécu quotidien et réalité sociale. Bien bonjour, le mois dernier, Loïc nous a proposé de découvrir la ferme de Trévarne à Saint-Urbain. Lors de cette première émission, les frères Glinec, éleveurs laitiers, nous ont raconté la manière dont ils ont fait évoluer la ferme familiale et comment ils ont permis l'installation d'une maraîchère, d'un fromager et d'un brasseur. On a pu entendre le mois dernier donc Jean-François et Olivier Glinec et le fromager Craig. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de poursuivre cette découverte en rencontrant Estelle, la maraîchère de la ferme de Trévarne, et Gwen, le brasseur.
Donc, je suis Estelle Martineau, et là, je suis maraîchère à Saint-Urbain, Trévarne, depuis 2013. Avant, j'avais fait l'agro de Rennes. C'était une formation d'ingénieur agronome, sans forcément d'objectif d'installation immédiat, mais finalement, je me suis installée plus vite que prévu. J'en avais assez d'être assise derrière un écran d'ordinateur toute la journée. Dans toutes mes études, à chaque fois que j'ai fait des stages, il y avait une partie environnement, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Après, je n'ai pas fait un travail ni des études que sur l'environnement, parce qu'on disait que c'était difficile d'avoir du travail derrière, qu'il valait mieux faire agriculture et environnement, ou traitement des déchets, pour agir sur l'environnement, mais de manière un peu indirecte. J'avais fait mon stage de fin d'études à Syngenta. C'est un équivalent de Monsanto, on va dire. Et pourquoi j'ai été là-dedans? C'est toujours intéressant de voir ce qui s'y passe. C'est dans le département environnement, entre guillemets, que je travaillais. Donc, je me disais, c'est peut-être pas mal d'aller dans une grosse boîte phyto pour essayer de réduire, justement, les contaminations et tout ça. Et j'ai commencé un peu à travailler après mon stage là-bas. Et même s'il y avait une partie de terrain, je trouvais que ça faisait quand même beaucoup de réunions, beaucoup de rapports. Et au final, pas forcément un impact très positif sur l'environnement, puisque les actions qu'on mettait en place n'avaient pas forcément un grand impact derrière. C'était plus de la communication, on va dire. Et donc, c'était pas forcément ce qui me plaisait aussi. C'était intéressant de voir ce qui s'y passait, les moyens qu'ils ont, qui ne sont pas ceux d'une ou deux personnes isolées, c'est sûr. Mais voilà, j'avais besoin de me refaire un truc plus local, avec mes mains, qui produit vraiment quelque chose et avec vraiment un intérêt immédiat, en fait. On voit le résultat. Et donc, ça fait du coup 8 ans que je suis là maintenant. Alors, quand j'ai commencé à me dire que je m'installerais bien en agriculture, la première chose, c'est de trouver des terres, ce qui est toujours difficile. Donc j'avais regardé autour de Brest ce qui était possible. Alors en maraîchage, on n'a pas besoin de grandes surfaces, 1, 2, 3 hectares, c'est bien. Et donc il existait des parcelles qui pouvaient convenir au niveau de la taille, mais il n'y avait jamais d'eau, il n'y avait jamais d'électricité, de hangar, il n'y avait rien. C'était de l'herbe et c'était tout. Alors à un moment, j'avais rencontré Jean-François à une sortie botanique avec Bretagne Vivante. Et je savais qu'il avait des terres sur Saint-Urbain, pas mal de terres. Et donc, je lui ai demandé à un moment s'il serait d'accord pour me prêter un petit champ pour que je fasse mon activité. Et il a été d'accord. Au début, je pensais avoir une exploitation qui aurait été complètement autonome. Et c'est après que je me suis dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec Jean-François, qui avait un peu tendu la perche en disant qu'eux, ils aimeraient bien installer des jeunes plutôt que de grossir, comme certains font. Et donc, je me suis dit, essayons, tentons la chance. Et puis, ça s'est passé, et ça s'est très bien passé même. D'accord. C'est beaucoup plus facile, je pense, de s'installer comme ça, quand les personnes sont en plus, ont du temps et aident bien les jeunes à s'installer, parce que c'est assez difficile comme étape. Je pense que c'était des très bonnes conditions d'installation. Si j'avais trouvé une parcelle et que j'étais restée dans mon coin, j'aurais été beaucoup moins bien que là, en fait. C'est beaucoup plus agréable de pouvoir avoir des gens autour de soi que de manger toute seule dans un coin le midi. C'est aussi rassurant parce que pour mes débuts, par exemple, où j'étais encore un peu hésitante, Jean-François, il m'a bien aidée aussi en me conseillant certaines choses, en me rappelant des fois qu'il était temps peut-être d'aller faire telle chose ou telle chose, d'avoir un regard extérieur en fait. On est tellement des fois dans ce qu'on fait qu'on peut zapper des choses. Non, non, c'est vraiment, c'était des très bonnes conditions pour s'installer et pour continuer d'ailleurs. Ouais. Et je pense qu'eux aussi sont contents parce qu'ils n'auraient pas installé Gwen ni Craig s'ils n'avaient pas eux-mêmes retiré des bénéfices. Enfin, le visage est beaucoup plus vivant maintenant. D'un point de vue strictement, légal, on a tous des entreprises qui sont indépendantes. Hein. On n'est pas, on forme pas un GAEC sur l'ensemble, mais donc ce qui laisse une certaine liberté à chacun. Mais après, c'est basé sur l'entraide en fait. On part du principe que c'est mieux d'être à plusieurs que d'être tout seul dans son coin. Par exemple, le vendredi, quand je vends des paniers, Craig ouvre aussi sa boutique et puis vend du fromage. Prochainement, quelqu'un va nous rejoindre pour faire du pain aussi. Et Gwen peut aussi, effectivement, de temps en temps, il ouvre aussi la brasserie pour qu'en fait, ça fasse comme une sorte de petit marché à la ferme. Je pense que ce genre d'entraide, c'est beaucoup plus intelligent que de se faire la guerre entre voisins. C'est beaucoup plus agréable aussi. Pourquoi maraîchage ? Parce que déjà, ça permet de faire des cultures assez vivrières. C'est une large gamme de légumes, donc ça, c'est pas mal. Parce que j'aimais bien aussi l'idée d'être un peu autosuffisant dans ma famille avec ça. Ensuite, l'autre point intéressant, c'est comme je disais, il n'y a pas besoin d'une grande surface de terre agricole, ce qui peut être difficile à trouver autrement. Donc 1 ou 2 hectares, c'est assez facile quand même. Et c'est aussi une installation qui ne demande pas des investissements de folie, parce que si on se lance maintenant dans l'agriculture, c'est de 200 000 à 1 million qu'il faut investir. Et donc, c'est des gros prêts avec la banque et beaucoup de pression derrière pour rembourser ces prêts. Et ça, je n'avais pas envie. Je sais que je n'aurais pas dormi la nuit si j'avais eu une telle charge derrière. Le maraîchage était vraiment une petite installation. Et comme ça s'est fait ici, c'était encore une installation plus petite, on va dire, que d'habitude, puisqu'une partie des choses sont partagées entre la ferme de Jean-François et Olivier et la mienne. Donc, je n'ai pas besoin d'acheter de tracteur parce qu'on le partage. Le fourrage, c'est pareil. Le hangar aussi. Donc, c'était vraiment une toute petite installation. J'ai 1,56 hectare en un seul morceau, donc à 500 mètres de ma maison à peu près. Dedans, j'ai 3 tunnels qui font à peu près 1000 mètres carrés. Je ne cultive pas forcément toute la surface, mais c'est bien d'avoir au moins ça pour pouvoir faire un peu de rotation. Et après, ici à Trévarne, donc à 500 mètres de cette parcelle, j'ai une petite maison où je prépare mes paniers et où j'ai une partie de ma récolte qui est stockée. Et aussi des hangars où je stocke quelques légumes. Et une petite serre dans mon jardin qui me permet de faire des semences sans avoir de croisement avec les variétés qui sont dans la parcelle du haut. C'est bien d'avoir 2 endroits, en fait, pour pas avoir de pollinisation croisée, en fait. J'aime bien aller de A à Z, et donc ça semble intéressant qu'un paysan puisse faire ses propres semences et ne soit pas complètement dépendant d'un semencier derrière. Parce que s'il décide à un moment d'arrêter une variété, eh bien, on n'a pas le choix, on est obligé de suivre, alors que si on l'aime bien et qu'on l'a produit soi-même, on peut la continuer après.
D'accord.
En termes de biodiversité aussi, je pense que c'est important. Parce qu'avant, il y avait beaucoup plus de variétés qu'à l'heure actuelle, ça a vraiment diminué. Peut-être village avait ses variétés, ou région en tout cas. Maintenant, c'est très uniformisé, et du coup, on a perdu plein de choses. Donc, que chaque paysan fasse ses semences, je pense que c'est important pour le maintien de la biodiversité. En maraîchage, vu que c'est très diversifié, on peut se planter sur une des cultures, mais il y en aura toujours qui vont fonctionner. Et quand on a 40 cultures différentes, du coup, c'est pas pareil que quand on en a que 3 et qu'il y en a une qui marche plus. On arrive à compenser. Et comme en plus, c'est de la vente directe, on n'a pas de problème qu'on pourrait avoir avec les producteurs de tomates. Quand la Russie refuse d'acheter des tomates, par exemple, françaises, ça a des conséquences énormes. Alors qu'en vente directe, on fixe ses prix. Et normalement, la clientèle est là, elle reste là, et on est beaucoup moins soumis à ce genre de fluctuations. Je pense que le maraîchage, c'est une activité assez stable, faut pas espérer gagner des millions avec ça, mais normalement, c'est assez régulier. Il y a une partie importante qui est vendue sous forme de panier, soit ici à la ferme le vendredi, soit à Brest à la fac de médecine. Comme mon compagnon y travaille, bon, ça me permettait d'avoir un peu un pied là-bas, de connaître certaines personnes. Et après, mon réseau s'est créé petit à petit. Et sinon, une autre partie est au magasin de producteurs de Goasven à Logona d'Aoulas. On est 4-5 maraîchers peut-être à livrer. On se répartit les différentes productions et chacun amène ce qu'il avait prévu de faire. Voilà, donc on va dire Goasven, c'est peut-être entre un quart et un tiers des ventes, et puis le reste c'est sous forme de panier. Alors, je ne travaille pas le sol dans les serres, ce qui est assez bon, qui est pas très très courant, et je mets pas non plus de plastique. Du coup, il y a une partie des plantes qui vont venir à graines, que je vais laisser d'ailleurs venir à graines, et ensuite je vais répartir ces graines sur l'ensemble, enfin sur certains endroits, et à l'automne ou quand les conditions sont bonnes, en fait, les plantes repoussent d'elles-mêmes, comme dans un cycle naturel, en fait. Et donc, au lieu d'avoir des mauvaises herbes qui poussent ou un sol nu, eh bien, j'ai ce couvert-là vivant que je récolte et qui se ressème du coup pratiquement tout seul d'année en année. Alors, il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs, hein, je ne le cache pas. C'est un nid à limaces, par exemple. C'est pareil aussi pour les campagnols, c'est un peu le paradis, parce qu'il y a un couvert permanent, soit vivant, soit de végétaux aussi secs, parce que je ne sors rien de mes serres. Tout ce qui pousse se décompose ensuite dans la serre et retourne au sol. Donc il y a soit un couvert végétal vivant, soit un paillage mort, on va dire. Et du coup, les campagnols font plein de galeries là-dessous, c'est jamais travaillé, donc c'est un peu le paradis. Donc du coup, ça c'est le premier tunnel que j'avais mis en place dès la première année. Le deuxième grand à côté, j'ai mis l'année d'après. Donc lui, il va pas bouger hein, parce que j'ai planté des arbres dedans. Donc il y a des pêchers, des abricotiers. Et donc comme je disais, là, il n'y a pas eu de travail du sol depuis 8 ans maintenant. Et mine de rien, la terre reste assez souple. Regardez. Parce qu'il y a des... Elle est travaillée en fait par les vers de terre, par la faune et la flore du sol. Et si on évite de marcher dessus, que la pluie ne tombe pas, il n'y a pas de raison qu'elle soit tassée. Donc ça pousse bien. Comme dans la nature, finalement, on ne travaille pas le sol non plus. Dans les forêts, il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu le but de se rapprocher d'un écosystème naturel. Et donc tout ce qui n'est pas semé en ligne et bien régulier, tout ce qui vient un peu n'importe où, donc c'est des semis spontanés. Voilà, ce qui donne une idée. Donc là, on voit que les épinards sont plutôt plantés. Ça, c'est des choses que j'ai plantées. Mais les bêtes et le mesclun qui vient à côté, les aromates, tout ça, c'est spontané. Et là, en gardant pas mal d'espace, il n'y a pas trop de problèmes de maladie. D'accord. C'est aussi l'avantage des associations. On peut espacer les choses sans perdre d'espace, puisque entre les choses, il y a d'autres choses qui poussent. Et c'est pareil au en été, du coup, j'ai des tomates qui vont pousser en hauteur et souvent, je plante d'autres choses en dessous qui poussent plutôt horizontalement. Comme ça, tout l'espace est utilisé. Tu vois beaucoup d'auxiliaires aussi qui viennent puisqu'il y a des fleurs, il y a différentes variétés. Le sol n'est pas travaillé, donc pas trop de perturbations. Et ça évite aussi, du coup, pas mal de ravageurs. On voit assez tôt des coccinelles, des cirfes, des chrysopes, des cécidomies prédatrices. Enfin, c'est diversifié. Donc, il y a quelques mauvaises herbes qui passent de temps en temps. Je les arrache avant qu'elles viennent à graines, parce que sinon je serais envahie après. C'est le problème de la technique. Il ne faut vraiment pas les laisser venir à graines. Par contre, les cultures qu'on laisse venir, ensuite se ressèment toutes seules, d'année en année. Ouais, alors là, ça, c'est des épinards. Là, il y a de la clétonne de Cuba. On appelle ça aussi du pourpier d'hiver. Ça, c'est de l'ail géant. Qui font des têtes qui font 10 à 15 cm de diamètre. Là, tu as des pommes de terre primeur, donc sans plastique, c'est un paillage végétal que j'ai mis dessus. Donc, c'est les débris des cultures précédentes. Et là-haut, il y a du houblon qui commence tout juste à pousser qui sert à la bière de Gouen. Une fois par an, il récolte les cônes de ce houblon et fait un brassin. Il appelle ça l'endémique, puisque c'est du houblon sauvage qu'on a été récolté à la Mignonne.
Alors, Gwenaëlle Brunet, j'ai lancé la brasserie en 2015. C'était une façon de gérer ma crise de la quarantaine, en quelque sorte. Je suis informaticien de formation. Je travaille à l'IMT Atlantique, une école d'ingénieurs à Plouzané depuis une vingtaine d'années. Et je ressentais le besoin de faire autre chose de mes mains, de créer un produit de A à Z. Voilà, je crois que c'était vraiment la première idée. Et puis forcément, quand on est dans ce souhait-là, on a envie aussi de trouver un métier qui est un petit peu rémunérateur, pas pour devenir riche, mais tout simplement pour payer les échéances. Et la brasserie, c'était le moyen de fusionner tout ça, donc de travailler avec ses mains, de créer un produit de A à Z, et en pouvant vendre et vivre un petit peu de sa passion. Alors l'arrivée à Trévarn s'est faite un peu par hasard, oui, quand même. On est venu aider Estelle plusieurs fois à monter ses tunnels. Elle avait besoin de main d'œuvre parce que monter un tunnel de maraîchage, c'est quand même un petit peu physique et plus on est nombreux, mieux ça se passe. Et du coup, moi j'ai parlé aux deux frères Glinec de mon envie, de ma motivation de monter une brasserie, mais que c'était un petit peu compliqué parce que à Brest, les locaux sont hors de prix par rapport à ce que je voulais faire. Et ils ont fait ça à la Glinec, c'est-à-dire que le lendemain ou le surlendemain, j'avais déjà des photos dans ma boîte aux lettres mail en me disant « Tiens, est-ce que tu veux venir t'amuser ici ?» Et assez rapidement, assez naturellement, humainement, on s'est plu, c'est-à-dire que je pense que l'amitié est venue rapidement, via encore une fois Estelle, c'est-à-dire que Estelle et son compagnon sont des personnes qu'on se voit souvent. Et puis ça a été assez naturel en fait d'intégrer le groupe Trévarn. C'est très agréable d'être dans ce cadre au calme. C'est un cadre de vie qui est quand même idéal. Enfin, tous ceux qui passent là disent waouh, c'est super. Les collègues brasseurs quand ils viennent là c'est pareil. Et puis ça rend le travail, certains aspects du métier qui sont quand même difficiles, ça rend tout ça beaucoup plus supportable. Et bien entendu, après, on a toute la partie conviviale qui est super chouette, c'est-à-dire qu'on se réunit quand même souvent, un peu moins en ce moment forcément, mais pour faire des bouffes ensemble, pour allumer le four à pizza en face, pour descendre un peu de bière ensemble. Et ça n'a pas de prix. Et c'est vrai que ça recrée du lien entre des personnes qui se seraient peut-être pas rencontrées autrement, et que... ça va bien au-delà, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent ici et qui sentent tout ça, c'est-à-dire qu'on reste encore des animaux grégaires et je vois bien qu'il y a une partie de ma clientèle qui vient là, pas que pour les bières, c'est-à-dire qu'ils se sentent bien, qu'ils viennent discuter, qu'ils savent que quand ils viennent là, ils vont me rencontrer, mais aussi d'autres clients qui vont pouvoir discuter. C'est un ensemble de choses, quoi. Pourquoi la bière ? C'est une passion qui s'est révélée à moi il y a déjà un petit moment. Comme je l'expliquais, j'ai été 10 ans brasseur amateur. La bière, c'est un produit de convivialité. Et voilà, après je me suis mis à faire de la bière parce que c'était sympa, que la fermentation, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu intriguant, je dirais. Il y a quand même une transformation d'un produit vers un autre. C'est-à-dire qu'on aime dire, quand on est brasseur, qu'on ne produit pas la bière. Ce sont nos levures qui produisent la bière. Nous, on produit le moût de bière qui ensuite va être transformé par les levures. Donc, c'est quand même un procédé qui est amusant, enfin, de voir la formation se produire, de voir les petites bulles dans les bouteilles quand on fait ça. C'est un côté un petit peu un peu rigolo, et c'est bien de justement refaire soi-même, de voir comment ça fonctionne. Et en toute simplicité, on peut faire des bières qui sont très chouettes avec des petites casseroles, des petits moyens, sans débourser des milliers d'euros. Mais voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut aller de La grosse tambouille, on prend limite sa cuillère en bois pour tourner le moût de bière, jusqu'à des processus semi-industriels en amateur, toujours. Voilà. Alors, la brasserie, c'est deux parties. Donc là, on se trouve dans la partie stockage. Voilà, donc c'est là aussi que je reçois ma clientèle qui vient m'acheter de la bière. Alors, j'ouvre surtout le samedi après-midi et on commence aussi à ouvrir le vendredi soir en même temps que Estelle, la maraîchère, et que Craig, le fromager. Et de l'autre côté, du coup, de l'autre côté du mur, j'ai ce qu'on appelle la salle de brassage. Donc c'est là que je produis, donc c'est là qu'on a toutes les cuves, qu'on a le matériel pour brasser, qu'on a les fermenteurs.
Donc voilà, là nous sommes dans la salle de brassage.
Exactement, donc c'est le lieu de production qu'on a fait, enfin que j'ai conçu, on va dire. Comme je faisais en brasseur amateur, c'est-à-dire que j'aime à décrire mon matériel comme étant une installation de brasseur amateur, mais en version XXL. Pour décrire un petit peu le matériel, on peut commencer par présenter un petit peu comment on fait la bière. Donc fondamentalement, on a trois étapes, on va dire, allez, pour caricaturer ça. La première s'appelle l'empâtage. On mélange les céréales avec de l'eau chaude. Donc ça permet d'obtenir le moût de bière, c'est-à-dire qu'on va, on va tout simplement extraire les sucres du grain, ainsi que les aromatiques, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste le sucre, sinon ça serait pas bon. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on fait bouillir ce moût de bière. Alors cette étape-là, elle est importante pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a besoin de stériliser le moût de bière. Pendant cette ébullition, on rajoute aussi, enfin, c'est à ce moment-là qu'on rajoute le houblon. On peut rajouter également des épices, enfin pas mal de choses. Et la troisième et dernière étape, grosse étape en tout cas, c'est qu'on transfère le moût de bière vers les fermenteurs et la bière part en fermentation dans les fermenteurs. Donc par rapport à ça, après, pour décrire le matériel qui permet d'arriver à ça, ben, forcément c'est des grosses casseroles. C'est-à-dire qu'on a récupéré deux anciens tanks à lait pour faire l'empâtage et l'ébullition. Donc l'empâtage, c'est un gros tank à lait de 850 litres dans lequel on mélange l'eau chaude avec le grain. Ensuite, par gravité, donc le moût de bière est transféré dans la cuve d'ébullition. Et puis, donc après cette ébullition, comme j'expliquais, via la pompe, on envoie le moût de bière qui est brûlant, qui est bouillant, dans le fermenteur. Et justement, pour lancer la fermentation, on est obligé de passer par une petite colonne bleue qui se trouve dans ton dos, qui est un échangeur à plaques, et qui permet de refroidir, pendant le transfert du moût de bière de la cuve d'ébullition vers le fermenteur, donc ce moût de bière. Donc je passe de plus de 90 degrés à une vingtaine de degrés dans le fermenteur. Et du coup, ça permet d'ensemencer le moût de bière immédiatement à la sortie de mon brassage, de lancer la fermentation, pour éviter toutes les contaminations. Voilà, après, pour le reste, si, quand même, j'ai pas parlé de l'instrument du brasseur, qui est le fourquet, qui m'a été fait par un ami au lancement de la brasserie. Donc c'est un fourquet en bois alimentaire. Que j'utilise vraiment, c'est pas de la décoration, c'est-à-dire qu'il est vraiment utilisé et qu'on utilise au moment du brassage à strictement parler, c'est-à-dire au moment où on fait l'empâtage, donc la première étape du mélange des céréales avec l'eau chaude. C'est une sorte de rame trouée, on va dire, et qui permet d'homogénéiser le milieu. Donc on a une sorte de pâte à crêpes un petit peu plus épaisse. Et pour mélanger, pour éviter les grumeaux, on utilise cet instrument-là. Donc je brasse sur un rythme de 15 jours, et c'est un rythme qui me convient bien, parce que je suis à la brasserie les jeudis, vendredis et un petit peu le samedi. Parce que du lundi au mercredi, je suis à mon autre boulot, et ça me permet d'embouteiller un jeudi sur deux, de brasser un vendredi sur deux, Voilà, ça me permet de faire autre chose. Et c'était un peu dans mon projet initial aussi, de me laisser du temps pour faire d'autres choses. Et ça me permet justement de rencontrer des personnes comme toi, ça me permet d'accueillir des brasseurs amateurs, voilà, ça me permet de faire un petit peu d'autres choses et de ne pas tout le temps être à fond la tête dans le guidon, quoi. Ça n'aurait pas été raisonnable. Moi actuellement, je refuse un nouveau revendeur quasiment toutes les semaines. C'est-à-dire que, y a une telle demande avec des nouvelles installations de bars, de caves et compagnie, que très régulièrement je refuse effectivement de vendre, ce qui est un peu paradoxal, mais voilà. Mais c'est ça, enfin, si je disais oui, je pouvais produire plus, et ça serait au détriment de ma vie personnelle, de tout le reste. Il y a un moment, il faut être raisonnable. Alors après, si j'ai ce confort-là, c'est aussi parce que j'ai un autre métier à côté et que j'ai un autre salaire forcément stable, du coup, qui me tombe tous les mois. Donc ça, c'est quand même un luxe de ce côté-là. Mais voilà, c'est aussi des choix personnels qu'il faut suivre et qu'il faut assumer également, quoi. Voilà.
Voici pour cette série de portraits réalisés à la ferme de Trévarne à Saint-Urbain, où les frères Glinec, Jean-François et Olivier, éleveurs laitiers, ont permis l'installation d'Estelle, maraîchère, de Craig, fromager, et de Gwen, brasseur.
La prochaine étape, c'est l'indépendance du village.
Ouais, on va mettre un mur autour.
Tu voulais ajouter quelque chose à dire?
Ouais, nous allons déclarer l'autonomie du Trévarnistan.